L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
On va aller à la prédication de la parole. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Combien croient ici que le Seigneur est un bon Dieu? Amen. On croit que le Seigneur est bon. Ce n'est pas simplement une expression, c'est une réalité dans nos vies. Puis on veut le découvrir de plus en plus comme étant le bon Dieu. Et ce bon Dieu veut bénir ses enfants. Et ce matin, le thème de la prédication, c'est « Remportons le prix ». Dans 1 Corinthiens chapitre 9, commençant au verset 24, il est écrit « Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne fanera jamais. » Et j'ai lu dans la français courant, version français courant. Vous savez, dans l'ancien temps, les gens couraient, les gens qui couraient, qui faisaient partie des Olympiques, recevaient une couronne de feuilles. Vous avez déjà vu ça? Et puis, des feuilles de laurier. Et puis, on va dire, ils sont entraînés, ils ont passé beaucoup, beaucoup de temps à s'entraîner pour avoir quoi? Pour avoir une petite couronne comme ça. Puis, ça va faner. On sait que ça l'a fané. Puis, deux jours plus tard, peut-être, ils ont même plus leur couronne. Et puis, ils ont investi tellement de temps pour une chose qui était temporaire. Et puis, cette semaine, qu'est-ce qui venait vraiment sous mon cœur? C'était de vous partager l'importance de voir notre vie comme étant un investissement pour le royaume de Dieu. Qu'on puisse investir notre vie, pas simplement la dépenser. Parce que vous savez, Dieu nous a donné un certain nombre de jours sur cette terre. Nous avons tous 24 heures par jour, mais nous décidons qu'est-ce qu'on va faire avec ces heures-là qu'on reçoit, que Dieu nous donne. À chaque jour, Dieu nous donne ce cadeau, le souffle de la vie. Amen. On peut vivre et puis louer le Seigneur. On peut choisir d'investir notre temps dans l'œuvre de Dieu. On peut choisir de le dépenser, par exemple, à écouter la télévision. Et c'est correct de passer du temps relaxé, aller au cinéma, juste changer nos pensées. C'est correct de faire ces choses-là. Mais il faut aussi marcher avec un équilibre où on ne passe pas tout notre temps dans des choses qui vont être temporaires. On veut investir nos jours dans l'éternité. Amen. Et c'est ça qui était vraiment dans mon cœur. Et qu'est-ce que suscité cette chose-là? C'est cette semaine, j'écoutais une vidéo qui a été enregistrée en 1983 quand j'étais en visite chez ma tante Diane en Floride. Ma tante Diane, elle a deux filles, Jill et Tracy, et puis son mari à l'époque, Uncle Jim, comme on l'appelait, il est en train de nous filmer, moi, ma sœur et puis ses enfants. Il est en train de nous filmer, en train de se baigner dans leur piscine. Et puis là, je voyais les commentaires, tu sais, j'entendais les commentaires, je me suis vu pour la première fois quand j'avais en 1983, je ne sais pas j'avais quel âge, là, mais je me suis vu comme un petit garçon. Puis je peux vous dire, mon père n'avait jamais filmé quand j'étais petit. Donc, c'est la première fois que je me suis vu en petit garçon à filmer. J'ai trouvé ça spécial de retourner dans le passé comme ça. Mais quand ça m'a dit dans cette vidéo-là, c'est vraiment en 1983, ça ne fait pas si longtemps que ça. J'avais quoi? J'avais 7 ans. Bon, ça fait qu'en tout cas, dans ce temps-là, bon, c'était ma réalité d'aller sauter dans l'eau, de me baigner, d'avoir du plaisir. Et puis, c'était mon existence dans le temps. Mais on évolue dans nos vies, par exemple. Mais qu'est-ce que ça me disait? C'est que je voyais le changement dans les vies de ces gens-là. J'ai vu la photo, mes parents qui étaient là, mon père un petit peu moins gris, ma mère des plus grosses lunettes. C'était spécial de les voir, mais mes parents n'ont pas changé. Eux, ils ont vraiment resté pareils. Et puis, mon oncle Jim est décédé du cancer, celui qui est en train de filmer, puis j'entendais sa voix. Qu'est-ce que ça me disait vraiment quand je voyais ça? C'est spécial de nous revoir, mais en même temps, je me rappelais que hey, les choses, là, ça change. On est tellement temporaire. On est ici un jour, puis demain, on n'est plus là. Mon oncle Jim était là, il était en train de nous filmer, en train de faire des commentaires, des jokes, et puis il n'est plus là aujourd'hui. Et ça me faisait penser vraiment, il faut savoir savourer chaque jour, et il faut savoir comment investir nos jours pour que ça vale de quoi. Puis je me souviens, moi, j'étais adolescent, j'étais au secondaire, puis je pensais justement à ça. Il faut que notre vie, ça vale de quoi? Il faut que ça vale de quoi? Est-ce qu'on est né pour simplement aller à l'école, avoir une bonne job, s'acheter une maison, s'acheter un auto et vieillir, avoir des enfants, vieillir et mourir? Est-ce que c'est ça le but de la vie? Simplement d'avoir des étapes, se procurer des choses et finir par mourir? Ou est-ce qu'il y a un plus grand plan pour notre vie? Est-ce que Dieu a des plus grandes choses pour nous à accomplir? Et moi, je crois que Dieu veut qu'on accomplisse quelque chose de grand avec nos vies. Et nous sommes tous appelés à faire des choses différentes. On n'est pas tous appelés à faire la même chose. Mais si vous êtes appelés à travailler dans un certain domaine, Dieu s'attend que vous allez apporter l'onction de Dieu dans l'endroit où vous travaillez. Je crois ça. Je crois que nous avons tous reçu l'onction de Dieu pour accomplir les choses que Dieu nous appelle à faire. Parce que Dieu nous a donné déjà, nous a déjà préparé des œuvres à l'avance afin que nous les pratiquions. Alors, il faut connaître ces œuvres-là et les accomplir avec l'onction de Dieu et amener cette onction partout où on se promène. Vous n'êtes pas tous appelés à prêcher, vous n'êtes pas tous appelés à chanter en avant, mais peut-être il y en a parmi vous, vous êtes appelés à travailler dans une usine, d'autres peut-être être appelés comme médecin. On est tous appelés à faire des choses différentes, mais nous sommes tous appelés à porter l'onction de Dieu et de réaliser le mandat de Dieu, l'appel de Dieu sur nos vies. Et quand on remplit le mandat divin, nous sommes un succès aux yeux de Dieu. Réalisez-vous ça ce matin, vous êtes un succès aux yeux de Dieu si vous dites oui à l'appel de Dieu sur vos vies. Si vous dites non à Dieu, vous passez à côté le prix que Dieu veut vous donner. Parce que Dieu veut nous donner des récompenses. Quand on va arriver au ciel et on va comparaître devant le jugement de Dieu, on va être jugé pour recevoir des couronnes. Savez-vous ça? En tant qu'enfant de Dieu, on ne sera pas jugé pour savoir est-ce que tu mérites d'aller au ciel ou non. Non, certainement pas, parce qu'une fois qu'on a été lavé par le sang de l'agneau, quand on a été purifié, ce n'est pas une question si on rentre au ciel ou non. C'est une question comment est-ce qu'on va être récompensé rendu au ciel. Et moi, mon désir, c'est que Dieu me dise, rends bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je veux pas que Dieu dise, Joël, j'aurais voulu te donner telle affaire, mais à cause, t'as pas voulu m'écouter, je peux pas te donner ça. Je peux juste te donner ça. J'aimerais ça recevoir le maximum des choses que Dieu veut me donner. Et je sais pas pour vous, est-ce que vous aimeriez ça? Avoir votre grande cabane au ciel, votre château, et avoir toute l'autorité que Dieu veut vous donner pour faire avancer son royaume. Alors, moi, je pense qu'on doit vraiment s'arrêter et penser à l'éternité pour qu'on puisse remporter le prix que Dieu veut nous donner. Amen. Et aujourd'hui, je peux vous poser la question. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut chérir aujourd'hui? Demain, ça se peut qu'on ne va même pas le chérir. Peut-être que vous étiez jeune et vous aimiez une telle affaire à la télévision. Et pour vous, là, hey, faut que je cancelle mes rendez-vous parce que je ne veux pas manquer une telle émission. Est-ce qu'il y en a des fois comme ça? Vous êtes invité chez quelqu'un. J'irais bien, mais il y a Star Academy, par exemple, admettons. Faut pas que je manque ça. Et là, c'est important pour nous en ce moment-là. Mais dans 2 ans, est-ce que ça va être important pour vous? Probablement pas. Je ne vous dis pas de ne pas manquer Star Academy. Je vous donne ça comme illustration, que les choses qu'on valorise aujourd'hui, peut-être on ne va plus valoriser demain. Et vous savez, les vedettes d'aujourd'hui, je peux vous mentionner le nom de Julia Roberts, vous savez c'est qui? Tom Cruise, peut-être Mel Gibson, Nicole Kidman. Vous connaissez ces acteurs-là aujourd'hui, parce que vous êtes le public d'aujourd'hui. Mais si je vous mentionnais, on va aller aux prochaines choses. Si on pense aux Oscars, OK? Aux Oscars en 1949, OK? 1959, on va reculer de seulement 50 ans, OK? Je vous mentionne la meilleure comédienne en 1959 qui a reçu le prix Oscar. Son nom, c'était Simone Signoret. Est-ce que vous connaissez Simone Signoret? Oui! Bon, ben les Français la connaissent. Moi, je la connaissais pas. OK? Et puis, meilleur comédien en 1960, c'était Burt Lancaster. Qui la connaît? Bon, ben il y en a les vieux qui connaissent. Mais remarquez qu'il y a une autre. C'est des mauvais exemples, finalement. Ma femme me chicane. Non. OK. Les plus âgés, les plus matures, je ne vais pas vous appeler les vieux, mais les plus matures connaissent ces gens-là. Mais moi, Burt Lancaster, j'ai déjà entendu parler du nom, mais je ne connais pas c'est qui. OK? Mais ces gens-là ont remporté les prix à leur époque et ça fait seulement 50 ans et il y en a la moitié ici aujourd'hui qui ne connaissent pas ces gens-là. Et qu'est-ce que ça nous fait penser? C'est que tous ces gens-là qui ont vécu le summum de la gloire pendant un temps, bien, aujourd'hui, ils n'en ont presque plus de gloire. Ils ont 50% de la gloire dans cette salle. Parce qu'il y en a juste 50% qui connaissent ces gens-là. Et on va dire, mais ils ont passé toute leur vie, ils ont investi toute leur vie à recevoir ce grand prix, cet Oscar-là. Et puis aujourd'hui, on les oublie. Et là, on pense aussi, concernant ce Oscar-là, on dit, mais le public qui était là, qui est en train d'applaudir, les acclamer, tout ça, bien, il y en a beaucoup d'entre eux aussi qui sont morts, qui sont même plus, sont même plus parmi nous aujourd'hui. Et on recule, là, 100 ans, les gens qui acclamaient, les chanteurs, les chanteuses, sont tous partis, eux autres, sont disparus, sont plus, ils font plus partie des vivants aujourd'hui. Alors, pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui? Bien, je veux vous faire réfléchir, qu'est-ce qui est vraiment important, là? Est-ce qu'on veut impressionner les gens ou est-ce qu'on veut impressionner celui qui prend en note nos jours, qui est le témoin, qui est le public, qui fait partie du public éternel? Et moi, qu'est-ce que ça me dit avec ma vie? Moi, une personne à qui faire plaisir. J'ai juste une personne à impressionner. Et ça, c'est Dieu. Si vous faites plaisir à Dieu et vous savez comment l'impressionner tous les jours de votre vie, vous allez remporter le prix, vous allez être des gagnants. Parce que moi, je pourrais tout vous impressionner, mais si Dieu n'est pas impressionné, ça ne vaut rien. Parce que vous autres, dans 100 ans, vous ne serez plus ici. Mais dans 100 ans, moi, je vais comparaître devant Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va dire à mon sujet? C'est ça qui va compter. Est-ce que c'est important, ça que je vous dis aujourd'hui? Alors, il faut prendre cette révélation dans nos cœurs et dire, moi, je veux investir ma vie pour que ça vale le max pour Dieu. Je veux investir ma vie, je ne veux pas passer ma vie à faire des choses inutiles aux yeux de Dieu. Et je sais que Dieu est gracieux, puis Dieu est content quand on s'occupe des choses temporaires des fois parce qu'il y a un but. Par exemple, je suis allé à Walt Disney avec ma famille, mais je pense pas que je vais recevoir une couronne parce que j'ai rencontré Mickey et Minnie, mais je pense que Dieu est béni du fait que j'investisse du temps dans ma famille. Ça, c'est important aux yeux de Dieu. Il y a des choses comme ça qui sont très importantes aux yeux de Dieu, mais il y a d'autres choses qui sont moins importantes, puis c'est à nous d'évaluer ces choses-là. Amen. Je vous invite à tourner dans le psaume 39. On va aller au verset 5. On va aller voir qu'est-ce que Dieu en dit. Le psaume 39, commençant au verset 5. Ça nous parle comment nous sommes temporaires. Donc, psaume 39, versets 5 à 8, je vais lire dans la Bible du Semeur. Ça dit, « Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient. Ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Et la richesse qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est tout en toi. » Alors ici, on voit que David écrivait ce psaume, puis il réalisait comment on était temporaire. Alors notre espoir devrait être en Dieu. Il y a des gens qui vont dire, « Ah bien, après la vie, il n'y a rien d'autre. Après la vie, il y a simplement la mort et puis il n'y a rien d'autre qui nous attend. » Il y a des gens qui ont cette perspective très négative et on va dire que c'est les gens qui croient dans l'évolution, qui sont athées et qui ne croient pas qu'un Dieu existe. Mais nous qui croyons que Dieu existe, nous savons qu'après la mort, il va avoir cette vie avec le Seigneur Jésus. Alors, on veut le bénir. Comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va vraiment faire plaisir à Dieu avec les jours que Dieu nous donne? Bien, c'est de marcher par la foi. Alors aujourd'hui, j'ai tout dit ça pour vous encourager ce matin à marcher vraiment dans la foi et de répondre à l'appel de Dieu sur votre vie. Alors je vous invite à tourner dans Hébreux 11, verset 6. Comment est-ce qu'on va faire pour impressionner Dieu? Il y a une chose qu'on doit faire. Il y a une chose qu'on doit faire, c'est simple. Sa volonté. Ah mais là, oui mais, comment faire pour faire sa volonté? Bien, il est écrit. C'est « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Alors, si on veut faire plaisir à Dieu aujourd'hui, il faut marcher par la foi. Il faut être rempli de foi. Il faut être des gens de foi. « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Voyez ici, il faut s'approcher de Dieu. Il faut croire en Dieu. Et il faut aussi s'attendre que Dieu va nous récompenser quand on le cherche. Alors, il nous parle ici de la foi. Et dans Habacuc 2,4, ça dit « Le juste vivra par sa foi ». Dans Hébreux 10, verset 3, ça dit « Et mon juste vivra par la foi ». Mon juste vivra par la foi. Ça, c'est notre appel de marcher à tous les jours par la foi. Et moi, une des choses que j'ai remarqué, souvent en parlant avec des chrétiens, les gens vont dire, admettons, s'ils disent, ben moi, je vis par la foi. Au Québec, habituellement, quand on dit ça, ben je vis par la foi, ou même à l'extérieur du Québec, I'm living by faith, là, ça veut dire, j'ai pas de salaire. Avez-vous déjà entendu ça? Quelqu'un dit, ben moi, je vis par la foi. Ça veut dire, moi, je vis pas de salaire. Mais c'est pas ça que ça veut dire dans la parole, vivre par la foi. Ça veut dire qu'on vit énergisé avec la puissance de Dieu à chaque jour de notre vie. On marche par la foi. Vous pouvez avoir un emploi et marcher par la foi et vivre par la foi. N'est-ce pas? C'est ça. Dieu veut que tout le monde marche par la foi. Les justes vont marcher par la foi. Ses enfants vont vivre par la foi. Donc, c'est pas simplement pour les pasteurs qui n'ont pas de salaire, supposément. Hein, c'est pas ça, c'est pas la réalité, mais c'est pour tout le monde. Nous sommes tous appelés à vivre par la foi. Et puis, Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Si on veut vraiment faire plaisir à Dieu avec notre vie, c'est d'être des imitateurs de Dieu. Si on peut l'imiter exactement comme Jésus était, bien là, on est en train de marcher par la foi. Jésus est notre modèle parfait. Si on veut marcher par la foi, si on peut simplement imiter ce que Jésus faisait, on va avoir un super de bon modèle, n'est-ce pas? Je pense qu'on ne se trompe pas. Si on regarde à ce que Jésus faisait, puis on dit, moi, je veux faire pareil. Je veux guérir les malades comme Jésus guérissait. Et cette semaine, il y avait un petit partage dans le triomphe de la foi que certains d'entre vous avaient peut-être lu. Et dans le texte, ça disait que des fois, on se voit comme étant la malade. Vous savez, la dame qui est en train de dire, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je vais être guéri. Moi aussi, je l'ai lu cette semaine, et puis moi aussi, ça m'avait touché ce partage-là. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je vais être guéri. Et souvent, nous, on se voit comme étant la personne malade qui a besoin de recevoir de Jésus. Mais l'auteur disait dans ce petit texte-là, « Mais le Seigneur m'a dit, arrête de te voir comme étant la malade qui veut guérir, vois-toi comme Jésus qui guérissait les malades. » Ça, c'est toute une autre façon de voir les choses. Que c'est les gens qui vont dire, « Si seulement je peux toucher le bord du vêtement à Mathilde, je vais être guéri. » Hein? Pourquoi? Bien, parce que Mathilde, elle a l'onction de Dieu dans sa vie. Elle est couronnée de la gloire de Dieu. Puis je sais qu'elle a l'onction de Dieu sur sa vie. Si seulement je peux la toucher, je vais être guéri. Hey, quelle différence! Une toute une autre façon de voir les choses. Mais c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs pour Dieu. Nous avons l'onction. Vous le savez déjà, hein, on l'a enseigné. Nous avons l'onction. On n'essaye pas d'avoir l'onction. Nous sommes déjà loin de Dieu. Amen! Donc, si on est déjà loin de Dieu, on l'a déjà reçu, bien, comment ça, on ne peut pas faire les choses comme Jésus les faisait? On peut les faire. C'est une question de foi. Alors, si on veut plaire à Dieu, on va dire, oui, je crois la promesse de Dieu concernant la guérison, par exemple. Donc, on veut des imitateurs de Dieu. Une des choses que Jésus faisait, c'est que Jésus, je vais vous dire une chose qui va peut-être choquer certains d'entre vous, mais Jésus avait la foi. Des fois, on pense que Dieu est notre source de foi, Dieu est l'objet de notre foi, et certainement c'est vrai, Dieu est l'objet de notre foi. Mais Jésus avait également la foi. Et il y a des gens qui disent, « Hey, ça se peut pas, on peut pas enseigner une chose pareille, que Dieu a la foi, voyons donc, parce que Dieu c'est l'objet de notre foi. » Mais arrêtez un moment, est-ce que Jésus a marché sur la terre comme vous et moi? Jésus a marché sur la terre comme un homme. Il était 100% Dieu, mais en même temps, il était 100% homme en marchant sur la terre. Et puis, les choses qu'il a faites sur la terre, tout le ministère qu'il a fait, il l'a pas fait parce qu'il était Dieu. Il l'a fait parce qu'il était un homme loin du Saint-Esprit. Les choses que Jésus a accomplies dans sa vie, il l'a fait parce qu'il était loin du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus-Christ. Le mot Christ veut dire loin. Jésus, loin. Jésus, toutes les choses qu'il a faites, toute la splendeur des grandes choses qu'il a faites, les miracles, c'était pas parce qu'il était Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, ben moi, je peux pas faire comme Jésus faisait. Je peux pas prier pour les malades et les voir guéris. Je peux pas faire la multiplication du pain, par exemple, parce que je suis pas Dieu, moi. Et puis, on va se disqualifier parce qu'on va dire, Jésus le faisait parce qu'il était Dieu. Mais moi, je suis pas en train de dire que Jésus était pas Dieu. Non, je vous dis que Jésus était Dieu, mais Jésus a choisi de s'humilier et de mettre de côté la puissance de la divinité pour une saison, pour marcher comme un homme, afin de nous démontrer ce modèle de puissance, pour qu'on puisse marcher comme ça aujourd'hui. Et s'il y en a peut-être parmi vous, vous êtes en train de dire, je suis un petit peu confus, on va aller dans la parole de Dieu. Vous allez voir qu'est-ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai, c'est la parole. Dans 1 Jean 5:21, en parlant de Jésus-Christ, ça dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, on sait que Jésus est Dieu. Amen? Vous croyez ça? Bon, Jésus est Dieu. Colossiens 2:9, ça dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu sur la terre. Il n'a jamais cessé tout d'un coup, oh, je suis juste un homme, je suis juste un prophète, je suis juste un enseignant. Ce n'est pas le cas, ça. Jésus a toujours demeuré Dieu, mais dans sa divinité, il a choisi de faire une chose. Dans Philippiens 2, versets 5 à 8, écoutez bien ceci. Ça dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Voyez-vous ici, ça dit, « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. » Il a choisi de mettre de côté cette puissance et même toute la connaissance qu'il pouvait avoir. Il a choisi de mettre ça de côté. Quand Jésus marchait sur la terre, il marchait vraiment comme un homme. Il y en a des gens qui disent « Non, non, ça ne se peut pas. » Mais pensez-y. Écoutez bien. Dans Hébreux 4:15, ça dit « Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Ce Jésus que vous connaissez a été tenté avec les mêmes péchés que vous avez été tenté avec. Savez-vous ça? Si vous pensez à un péché là, dans votre tête, vous avez déjà eu une tentation. Là, pour un moment, je veux que vous imaginez que Jésus a eu la même tentation. La même tentation que vous. Mais là, vous allez dire, non, non, ma tête, ça se peut pas. Dieu peut pas être tenté comme ça. Ça sera. Des fois, là, on se dit, c'est trop terrible. Dieu ne pourra pas avoir été tenté avec une chose pareille. Mais pourtant, c'est ça que Dieu dit. On va le redire ici. Hébreux 4:15, ça dit, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il n'a jamais chuté dans le péché. Et la tentation, là, ça devrait pas nous donner un sentiment de culpabilité. Parce que Jésus a été tenté. C'est quand on accepte de tomber dans la tentation, c'est à ce moment-là qu'il y a un sentiment de culpabilité et là, on a besoin de se repentir. Mais le fait simplement de recevoir une tentation, ça ne veut pas rien dire. Ça veut simplement dire que l'ennemi est en train de nous envoyer des choses, il est en train de nous envoyer des flémèches. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est résister à l'ennemi, il va fuir loin de nous. On ne tombera pas, on va faire comme Jésus, on ne commettra pas le péché. Mais Jésus, pensez-y, pendant un temps, pendant qu'il marchait sur la terre, loin du Saint-Esprit, l'ennemi venait l'attaquer avec toutes sortes de tentations. Et si, à cause de sa divinité, il était intouchable, ce ne serait pas des vraies tentations. Pensez-y. L'ennemi vient dire, « Jette-toi en bas. » Et lui, il dit, « Parce que je suis Dieu, tu ne me déranges pas, Satan. » Mais ce n'est pas comme ça qu'il répondait. Jésus, il disait, « Arrière de moi, Satan. » C'est quoi qu'il disait? « Il est écrit. » « Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. » Il est écrit. Il répondait toujours avec la parole de Dieu. Alors, vous voyez que Dieu, Jésus, nous a donné le modèle comment résister à l'ennemi. Ce n'est pas parce que Jésus était Dieu qu'il a résisté, c'est parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Même si Jésus était Dieu, il n'a jamais cessé d'être Dieu, ce n'est pas à cause qu'il était Dieu qu'il a pu résister. Parce que si tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a accompli, c'est parce qu'il est Dieu, ça veut dire que ce n'est pas notre modèle, parce que nous ne sommes pas Dieu. Amen. On aurait toujours la raison de dire, oui, mais je ne suis pas capable, moi je ne suis pas Dieu, avec raison. Mais Jésus a accompli des grandes choses parce qu'il était loin de Dieu. Il a choisi de marcher, même s'il était 100% Dieu, il a choisi de marcher avec des limitations pendant qu'il était sur la terre. De lui-même, il a choisi d'être limité. Il s'est limité lui-même. Pendant un temps, quand il marchait sur la terre. Et je sais que pour certains, peut-être c'est du nouveau que je vous dis, mais si on peut comprendre ça, bien là, on peut commencer à changer notre façon de penser concernant notre ministère. On va arrêter de se disqualifier et dire c'est juste pour les autres ou c'est juste pour Jésus. Donc, on a établi que Jésus, fils de l'homme, loin, dans Actes 4, 26, 27. Okay? Jésus était loin de Dieu. Et il était notre modèle parfait. Il nous a toujours montré comment accomplir la volonté de Dieu en tant qu'homme. Comme ça, nous aussi, on peut le faire. Et là, je vais vous lire un texte dans Marc 11, 12 à 14. Si c'est un texte qu'on connaît bien concernant le figuier. Si on veut marcher d'une façon à plaire Dieu avec nos vies, la façon qu'on va le faire, c'est en imitant le Seigneur Jésus, qui est une marche parfaite dans la foi. Marc 11, 12 à 14, il est écrit. Le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Alors Jésus ici, on voit qu'il a maudit l'arbre figuier. « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Allons au verset 20 maintenant. Ça dit « Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. » Voyez la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu peut dessécher jusqu'aux racines. S'il y a des racines d'amertume dans vos cœurs, la parole de Dieu sur ces choses-là peut complètement dessécher les racines. S'il y a des racines, peu importe, de maladie, de malédiction dans vos vies, la parole de Dieu peut dessécher ces racines-là ce matin. Verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ici, je vais attirer votre attention sur le texte, dans le verset 21, c'est dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Le texte, ayez foi en Dieu, ne veut pas simplement dire ayez foi en Dieu, mais ça veut littéralement dire dans le grec, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Ou en anglais, have the God kind of faith. La sorte de foi que Dieu a. Et Dieu nous dit, si Jésus nous dit, ayez la foi de Dieu, ayez ma sorte de foi. Mais si vous ne croyez pas que Jésus avait la foi, comment pouvez-vous avoir cette foi-là active et en opération dans vos vies? C'est impossible. Mais Dieu nous dit, je veux que vous marchiez comme moi, je veux que vous commencez à m'imiter et je veux que vous marchiez avec cette même puissance que j'avais. Alors vous allez avoir besoin de ma foi, la foi de Dieu. Et c'est une foi qui n'est pas corrompue par la tradition des hommes, c'est une foi parfaite. Amen. Et ici, je vais vous donner la source. Ça s'appelle « A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research ». Ça, c'est tout un titre de livre, mais pour ça, à la radio, vous pourrez le prendre en recherche. À page 500, c'est le théologien, le spécialiste dans le grec, il dit ici dans Marc 11, 22, que ça ne veut pas simplement dire « en Dieu, ayez la foi en Dieu », mais littéralement « ayez la foi de Dieu ». Alors ça, c'est le théologien qui nous donne cette explication-là. Alors, le principe de foi qu'on peut voir ici, c'est qu'on doit avoir la foi que Jésus avait. Il faut croire que Jésus avait la foi. Même si Jésus est notre objet de foi, on croit en lui et on comprend que la foi, c'est d'avoir confiance en Dieu, c'est de croire Dieu, mais c'est également avoir cette foi qui opérait dans la vie de Jésus. Et là, on voit ici, dans Hébreux 11, verset 1, ça nous parle de la foi, encore une fois, que Dieu veut développer. Ça nous dit que la foi est une ferme assurance. Donc, c'est une croyance. Et quand on va dans la Bible anglophone, ça nous dit que la foi est une substance. C'est quelque chose de tangible, la foi. Il y a des gens qui vont dire que toute la terre, tout l'univers a été créé par rien. Ça, c'est faux. Toute la terre et tout ce qu'on voit, toutes les planètes, toutes ces choses-là, ça a été créé, ces choses-là ont été créées par la parole de foi, la puissance de la parole de la foi de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Dans Psaume 33, verset 9, ça dit, « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Il dit, elle arrive. C'est la puissance de la parole de Dieu dans nos bouches. C'est une réalité pour nous, enfants de Dieu. Donc, ayez la foi en Dieu, ayez la foi de Dieu. Amen. Et je sais, ça prend peut-être du temps à descendre dans nos cœurs, cette révélation-là que Jésus avait la foi. Mais quand on comprend vraiment que Jésus a marché comme un homme comme nous, il a marché sur l'eau, il a fait la multiplication du pain, il a fait toutes ces choses-là avec l'onction du Saint-Esprit. À ce moment-là, qu'est-ce que ça fait dans nos cœurs? C'est que ça enlève toute limite des choses qu'on peut faire. Est-ce que vous êtes limité dans votre vie? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire? Non, parce qu'avec Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu m'appelle à faire une chose, je vais être capable de le faire. Il n'y a rien qui va m'empêcher, rien au monde. Si Dieu m'appelle à marcher sur l'eau, je vais être capable de le faire. À date, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Parce que Dieu ne m'a pas appelé à le faire. Comprenez? Mais si Dieu vous appelle à faire de quoi? Surnaturel, merveilleux, Dieu va vous accompagner et Dieu va vous donner la puissance. Pas parce que vous êtes Dieu, comme le Nouvel Âge enseigne, mais c'est parce que vous avez l'onction de Dieu en dedans de vous. Vous êtes recouvert de son onction. Et moi, je connais des gens qui ont cru ce que je suis en train de vous enseigner et qui ont fait des grandes choses. Je pense à Patricia King, qui était avec des croyants dans sa maison. Et puis, elle avait tellement de visites qu'elle avait tout mangé le poulet. Et puis là, il ne restait plus de nourriture pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle dit, on va faire comme Jésus. On va prier sur la nourriture et croire à la multiplication du poulet. Et puis, elle a prié. Les gens ont pris du poulet. Du bon Kentucky, je ne sais pas si c'est du Kentucky, mais les gens ont commencé à prendre du poulet et puis elle dit qu'il en restait dans le frigère après. Mais pourtant, il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Mais il y a eu la multiplication de poulet. Puis elle dit, le monde en prenait. Elle dit, il n'y avait pas de limite, c'était merveilleux. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas quand on est loin de Dieu? Et si Dieu l'avait appelé à faire cette chose-là, qui est pour moi, c'est un miracle. Et vous savez, dans la parole, ça dit que dans les derniers jours, il va y avoir des signes et des prodiges. Il va y avoir toutes sortes d'affaires qui vont se passer. Et si Dieu nous appelle à faire des choses comme il faisait et encore plus grandes, mais pourquoi pas du poulet? Hey, c'est simple à faire, ça, du poulet. Hein? Et moi, je connais une autre histoire, une femme que Dieu avait dit, « Je t'appelle à aller en France évangéliser. » Mais là, elle dit, « Seigneur, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens pour m'en aller en France. » Mais le Seigneur dit, « Je te dis, va-t'en à l'aéroport, tu t'en vas en France. » Alors, par obéissance, cette sœur s'en va à l'aéroport. Elle a la foi qu'elle s'en va en France évangéliser, mais elle n'a pas les moyens, elle n'a pas de billet d'avion, elle n'a rien comme ça. Et puis là, elle est comme, « Seigneur, elle dit, tu m'as envoyé ici, je t'obéis, je connais ta voix, je sais c'est toi qui m'as dit de venir ici, mais ça ne fait aucun sens, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens, personne n'est venu me donner l'argent, puis je pensais peut-être que quelqu'un était pour me donner l'argent ou un billet, je ne sais pas, il n'y a rien qui s'est passé, puis je ne sais pas quoi faire, Seigneur. » Finalement, elle s'en va à la salle de bain, puis elle s'en va à la salle de bain, elle ferme la petite porte, et puis elle fait ses choses. Elle sort et puis est en France. Ça s'appelle être transporté surnaturellement. Est-ce que vous croyez à ces choses-là? Moi, j'y crois. Pourquoi pas? On voit dans le livre des Actes comment quelqu'un était déplacé surnaturellement. Pourquoi pas aujourd'hui? Hein? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je sais que je vous étire un petit peu, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi, là, je ne suis pas satisfait avec la dimension de gloire dans ma vie. Je peux vous le dire, moi, je suis insatisfait. Je suis très insatisfait et je veux voir bien plus dans ma vie. Je veux voir bien plus que ce que je vois. Si on est satisfait aujourd'hui comme nous sommes, on va rester comme ça. Et c'est facile, là, on devient des chrétiens religieux. Et là, on peut faire l'Église comme ça. Et on ne verra pas de changement. Mais si on a soif, puis on dit, Seigneur, j'en veux plus. Je veux plus de ta présence. Je veux vivre plus les choses que toi, tu vivais. Je veux vivre tout le summum de la gloire aujourd'hui. Mais moi, je crois que ça fait plaisir à Dieu. Dieu voit notre soif et voit qu'on est des gens de foi. Et là, on est agréable. Et on est un parfum dans ses narines. Amen. Donc, si on veut avoir la foi de Dieu et on veut avoir la puissance de Dieu, dans Marc 16, versets 17 à 18, si c'est un texte, vous connaissez tous bien, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, alors on va le lire et on va laisser ça pénétrer dans nos cœurs. Ça dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas ceux qui auront douté ou ceux qui vont dire « c'est même possible aujourd'hui », ceux qui vont avoir écrit des livres en théologie contre la foi, non. Ceux qui auront cru « en mon nom, ils chasseront les démons ». Ça veut dire qu'on a l'autorité de chasser les démons. S'il y a quelqu'un qui se présente devant vous, qui se met à écumer, tout ça, vous avez l'autorité de chasser le démon au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que vous êtes loin. Vous êtes loin. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un cours spécialisé sur la démonologie. Je sais qu'en donne des cours, il y a des gens spécialisés là-dedans qui pensent qu'il faut être spécialisé dans les démons pour chasser les démons. Moi, je ne crois pas qu'on a besoin d'être des spécialistes anti-démons. Moi, je crois qu'on est loin de Dieu, on a l'onction de Dieu. Quelqu'un démonisé devant nous, au nom de Jésus, soit délivré. OK? Ça dit, c'est ça. Les miracles de ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Toujours ça, en mon nom, parce que c'est Jésus qui fait à travers nous. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Ils ne leur feront point de mal. Ici, là, qu'est-ce qui est intéressant? Vous savez, dans la parole de Dieu, ça dit, vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu. Il y a des églises dans le sud des États-Unis. Ça s'appelle des Snake Handling Church. Des églises qui vont littéralement avoir une boîte avec des serpents dedans. Et puis là, ils vont prendre les serpents et puis ils vont faire des réunions en tenant des serpents, pensant que si je me fais piquer, ben là, je vais être protégé. Puis là, il y en a qui ont été piqués, ils ont tombé à terre, ils se sont mis à écumer, puis sont morts là. Mais vous savez, si Dieu nous dit de ne pas faire des choses comme ça, de ne pas tenter Dieu, ça veut dire « courez pas après des serpents » pour essayer de voir si ça marche. Hein? Mais le principe ici, là, c'est que si vous êtes en voyage, vous êtes dans un voyage missionnaire, et puis par exemple, vous marchez, puis là, il y a un serpent qui vous pique, comme l'apôtre Paul a été piqué par un scorpion, bien Dieu lui donne la protection qu'il a besoin, parce qu'il n'a pas couru après, mais c'est quelque chose qui s'est passé comme ça. On sait que Dieu nous donne une protection divine, comme dans le psaume 91, qu'est-ce qu'il nous dit. Et j'écoutais cette semaine un enseignement par Marilyn Hickey qui disait, pendant 50 ans de ministère, elle s'est promenée partout à travers le monde, puis il n'y a jamais une fois qu'elle a tombé malade quand elle a prêché dans les pays comme en Inde, puis tous les pays du tiers monde, elle n'a jamais tombé malade. Puis moi, je disais à mes parents, j'ai dit, « Wow, moi j'ai besoin d'avoir plus de foi encore, parce que moi j'ai besoin d'expérimenter ça quand on voyage à l'extérieur, parce que j'en ai besoin plus de protection, j'ai besoin de saisir plus d'affaires dans ma vie, parce que moi en Haïti, vous savez, j'ai maigri de 18 livres. Donc j'ai pas le témoignage de Marilyn Hickey, mais elle n'a jamais été malade en 50 ans de ministère, parce qu'elle prie puis elle disait, des fois elle dit, je sais, en Chine, elle dit, eux ils mangent du chien. Elle dit, puis je voyais ça là, accroché là, dans des magasins de viande, puis elle dit, ça me levait le cœur, puis ça me dit, oh! Je voudrais pas manger ça, mais elle dit, quand il me servait un plat devant moi, elle dit, je le demandais pas si c'était du chien. Elle dit, je ne demandais rien. Elle dit, je mangeais, puis je priais sur ma nourriture. Seigneur, protège-moi, enlève la maladie de ces aliments-là. Puis elle dit, en 50 ans, j'ai jamais tombé malade. Elle a du courage que j'ai pas encore. Mais moi, je pense pas que je suis appelé à aller en Chine. Moi, je suis appelé à la francophonie. Et là-bas, on mange du pain, du bon fromage. Non, mais c'est de quoi, ici, pour amener au sérieux, là, c'est que s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris parce qu'on prie en son nom, par son autorité. Et dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. On va faire des plus grandes choses que Jésus a fait. Est-ce que vous croyez ça aujourd'hui, que vous allez faire des choses plus grandes que ce que Jésus a fait? Faut vraiment méditer là-dessus. Je vais faire des choses plus grandes encore. Bien, c'est ça que la parole de Dieu dit. Vous allez faire des choses plus grandes que ce que Jésus a fait. Ça rentre-tu dans votre religion, ça? Sinon, changez de religion. Bien, c'est la parole de Dieu. On va faire des choses plus grandes. C'est quoi? Donc, par la foi, on va avoir la puissance de Dieu. Par la foi, il faut ensuite remplir nos fonctions d'ambassadeur. Parce qu'on veut remporter le prix. On veut faire plaisir à Dieu. Donc, il faut être des ambassadeurs de Jésus-Christ. Partout où on se promène. Quand on se promène, les gens vont savoir que je suis un enfant de Dieu. Quand les gens vont vous voir, ils vont savoir que vous êtes un enfant de Dieu. Que vous avez de quoi qu'ils n'ont pas. Amen. Vous avez de quoi qu'ils n'ont pas. Ils sont supposés le voir sur vous. Amen. Ici, dans 2 Corinthiens 5, 20, ça dit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça notre rôle, que les gens puissent nous voir et par la suite qu'on puisse parler aux gens et les supplier d'être réconciliés avec Dieu. Donc, nous sommes appelés à être des témoins au nom de Jésus-Christ, d'amener les âmes à Christ. Si on a la puissance de Dieu en dedans de nous, c'est-tu pour rester chez nous avec cette puissance-là ou c'est pour être à l'œuvre et accomplir les œuvres de Dieu dans nos vies? Moi, je crois que c'est pour faire quelque chose avec. Amen. Dieu nous appelle à sortir de nos maisons et de jaser avec les gens, d'être rempli de l'amour de Dieu, rempli de l'onction de Dieu, être une source de bénédiction pour les gens. Et il faut agir avec sagesse, certainement. Il faut agir avec sagesse parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont brûler les gens et qui vont arriver avec la Bible en pleine face avec les gens. Puis c'est pas le temps. Il faut être sensible. Il faut revenir comme l'Église primitive qui était sensible au Saint-Esprit. Il faut savoir quand Dieu ouvre une porte pour partager l'Évangile. Et quand Dieu ouvre cette porte-là, et là, vous avez gagné la confiance de la personne, là, c'est de partager cœur à cœur et leur laisser savoir que Jésus-Christ, c'est la solution pour leur vie. Jésus est la solution pour leurs problèmes. Amen. Donc, on est appelé à être des ambassadeurs, d'être au service de Dieu et de bien représenter notre roi. Et quand on revient là, au texte qu'on a lu tantôt, dans Philippiens 2, puis le verset 5, ça dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. » Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié. Jésus s'est humilié pour nous. Est-ce qu'on est prêt à marcher dans l'humilité pour accomplir les œuvres de Dieu? Si on veut toujours faire ce spectacle, notre vie est un spectacle devant Dieu, c'est le seul spectateur, admettons, on passe toute notre vie à vouloir plaire à Dieu, bien, on ne marchera pas dans l'arrogance parce qu'on veut lui plaire, puis on sait que l'arrogance, ça pue dans ses narines, mais on sait que si on s'humilie devant lui, qu'on va être un parfum favorable dans ses narines, on va être une source de bénédiction pour lui. Dans Galates 6, 14, ça dit, « Pour ce qui me concerne, l'apôtre Paul dit, « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour lui comme je le suis pour le monde. Donc, je vais me glorifier en Jésus-Christ. » Si je me glorifie d'une chose, c'est de l'œuvre de la croix et ce que cette chose, cette œuvre-là a accompli pour nous. À cause de la croix, aujourd'hui, on peut être libre. Je me glorifie de cette liberté en Christ. Je me glorifie de toutes les choses que le Seigneur me donne. Mais je vais toujours me glorifier en lui, jamais en moi. Dieu ne m'appelle pas à avoir l'estime de soi. Dieu ne m'appelle pas à avoir une bonne estime en moi-même. Savez-vous ça? Je ne suis pas appelé à ça. Je sais que les psychologues vont tous dire qu'il faut avoir une bonne estime. Moi, je suis appelé à avoir l'estime en Christ. Et si mon identité est en Christ, j'ai une bonne estime parce que c'est l'estime de Christ en moi. Et là, je peux être confiant dans la vie parce que je marche en Jésus-Christ. Je marche dans son onction. Je marche dans toute la puissance de l'Évangile qui est disponible pour moi. Vous allez dire, ouais, mais ça, c'est une bonne estime. Oui, mais ce n'est pas basé sur la performance de Joel Spinks. Parce qu'en moi-même, je ne peux rien faire. Mais avec Christ, on peut tout faire. N'est-ce pas? On peut tout faire ce que Dieu nous appelle à faire. Si on peut y croire. Et dans Psaume 127, verset 1, ça dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Alors, toujours voulant être un ambassadeur de Christ pour lui faire plaisir, on veut glorifier le nom de Jésus dans nos vies, mais on ne veut jamais s'élever et dire, « Les révélations de Joel Spinks, c'est telle affaire. » Si vous venez écouter Joel Spinks, vous allez entendre ses révélations, ses rêves, ses affaires. C'est qu'est-ce que Dieu dit. Et dans vos vies, est-ce que vous parlez plus de vous que vous parlez de Jésus? Si on parle toujours de Joël, 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 bien vous allez sortir d'ici et dire, hey, il est rempli de Joël, ce gars-là. Mais si il dit Jésus, 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 qu'est-ce qui sort de mon cœur? C'est le nom de Jésus. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? C'est le nom de Jésus. Vous allez voir, il est rempli de Jésus. Et si mon témoignage, quand vous sortez d'ici, vous savez, ce gars-là là, est en amour avec Jésus, il n'est pas en amour avec lui-même. Ça, c'est un bon témoignage. Ça, c'est le témoignage que je veux. Parce que même si vous êtes tout impressionné avec moi, même si j'arrive tout à vous impressionner et vous dire, « Hey, j'ai mangé avec telle personne, j'ai parlé avec telle personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Puis vous êtes tout, « Wow! » Mais dans 100 ans, vous n'existerez même plus. Puis le fait de vous avoir impressionné ne va avoir rien changé dans l'éternité. C'est pour ça, des fois, là, quand notre priorité, c'est d'avoir une belle auto là, pour impressionner le voisin. Dans 100 ans, là, ton voisin ne sera plus là. On s'en fout-tu de ton auto? Non, mais sérieusement, est-ce qu'on arrête des fois à y penser? Qu'est-ce qui est important, c'est d'impressionner Dieu. Si je conduis une Volkswagen, c'est ça mon cas, là, mais tu sais, je suis capable de payer mes autres affaires, puis je suis béni, bien, gloire à Dieu. Hein? Donc, par la foi, on veut remplir la fonction d'ambassadeur et d'élever le nom de Jésus-Christ, pas s'élever soi-même. Parce que si on commence à s'élever, on va passer à côté. Puis une des choses, Dieu commence des fois à donner des dons, à travailler des choses dans la vie des gens. Et là, il commence à goûter un certain succès. Il commence à voir des miracles se produire dans leur union. Il commence à se réjouir, à avoir des âmes sauvées. Et là, les gens sont contents. Et tout d'un coup, les prédicateurs ou les personnes en question qui voient le fruit commencent à tourner leur regard vers soi-même et disent « Wow, check notre ministère, check qu'est-ce qu'on fait, vois toutes ces choses-là. » Et là, ils commencent à parler d'eux autres même, comme si c'était eux autres la source du succès. Si on fait ça, là, Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Tu fais ta propre promotion, parfait, je te laisse faire ta propre promotion. Ta campagne de promotion, je te laisse la faire. Et là, Dieu se retire, et là, on voit le ministère commencer à diminuer, les âmes commencer à se détourner, on ne voit plus les miracles qu'on voyait dans le passé, parce que là, les gens commencent à bâtir sur une autre fondation qui n'était pas Jésus-Christ. C'est pour ça, si on ne bâtit pas sur Jésus-Christ, là, on bâtit sur une mauvaise fondation. Il faut toujours, toujours revenir à la bonne fondation qui est Jésus. Puis si on reprend là, 1 Corinthiens chapitre 9, le texte qu'on a commencé avec tantôt, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 25, ça disait, « Vous savez sûrement que le coureur dans le stade court tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. » Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce texte-là également? C'est que les athlètes qui vont remporter le prix, c'est des athlètes qui vont savoir se discipliner sévèrement. Combien de personnes aiment ça, avoir des personnes sévères dans leur entourage? On n'aime pas ça. Quand il y avait des profs à l'école qui étaient sévères, c'était les profs qu'on n'aimait pas, n'est-ce pas? Habituellement, les gens sévères, on n'aime pas trop ça. On aime les gens qui rient puis qui ont du fun. Puis il y a un temps pour ça. Mais Dieu nous appelle à être sévères envers soi-même et qu'on se discipline. Ça veut dire, si je me discipline moi-même, je vais mettre Dieu en priorité dans ma vie. Puis je pense, on le dit souvent à l'église ici, on est une église qui prie. Hein, on est une église, je sais que tout le monde, on a une vie de prière ici, et aussi on est une église qui lit la parole de Dieu à tous les jours. Puis on a un objectif de connaître tout le Nouveau Testament en dedans de 2 ans, puis on va le connaître par cœur, ou après, pas mal, on va savoir vraiment nous retrouver avec le principe qu'on a commencé. On est une église, on est discipliné déjà, moi je crois. Moi, je me réjouis de ça. On a une discipline, mais Dieu nous dit d'avoir une discipline sévère. Alors, il faut des fois se donner un coup de pied et se dire, là, je vais faire les œuvres de Dieu, même des fois, si je trouve ça difficile. Parce que pour vraiment répondre à l'appel, des fois, il y a des montagnes à monter. Des fois, il faut escalader des choses, des pentes. Et des fois, Dieu nous dit, OK, parle à la montagne. Et là, elle se tasse. Mais il y a d'autres fois où il faut faire des choses. Et moi, je crois que dans votre vie personnelle, peu importe ce que Dieu vous appelle à faire, il ne faut jamais se permettre d'être paresseux. On va aller à prochain écran. Ça, l'animal que vous voyez là, ça s'appelle un paresseux. En anglais, le mot « slothful », ok, ça vient du mot « sloth » et ça s'appelle un « sloth » en anglais. Mais le paresseux, c'est justement ça. C'est une bête qui est vraiment paresseuse. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait toute sa vie? Cette bête-là, là, elle va se tenir dans un arbre. Habituellement, on va voir l'animal couché dans l'arbre. Et c'est tellement un animal paresseux qui va toujours rester couché, il ne va jamais descendre, c'est très, très rare. Et puis, il va se nourrir avec ce qui est autour de lui, de peur de se déplacer. Okay, l'animal, c'est vraiment un animal paresseux, il reste toujours là, collé. Et puis, je vais vous lire un petit texte concernant les paresseux, que vous pourrez lire sur Wikipédia. Ça dit, les paresseux sont connus pour leur mode de vie original, presque toujours suspendu à l'envers dans les arbres et se déplaçant avec lenteur. Ils possèdent des griffes impressionnantes. Outre les 6 espèces vivant actuellement, on connaît 4 espèces éteintes de paresseux qui vivaient en Amérique. Il y en a 4 de ces espèces-là qui sont éteintes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop paresseux. ils ne pouvaient pas se déplacer pour aller chercher de la nourriture. Et puis ça, là, le texte, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que dans la parole de Dieu, ça en parle beaucoup de la paresse et de ne pas être paresseux. Vous avez dit, ben Joël, on n'est pas paresseux. Non, mais on veut vous garder de même. Dans Proverbe 21-25, ici ça dit, « Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Pour faire plaisir à Dieu et pour marcher dans la foi, être une personne de foi, une personne prête à voir les œuvres de Jésus en opération, il faut être prêt à faire comme Jésus. Jésus se déplaçait, il allait de l'autre bord de la mer, il se déplaçait, il allait évangéliser, hein, il se promenait, il marchait, prenait des marches, il sortait de chez eux. On lit pas les textes dans la parole de Dieu. Et Jésus demeurait dans sa maison et lisa, faisait la lecture, l'autre livre. Et Jésus se coucha et Jésus se recueillait. C'est pas ça. Ça nous parle des actes de Jésus. Et dans le livre des actes des apôtres, c'est les actes des apôtres. C'est les choses qu'ils ont faites et les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Donc Dieu nous appelle à avoir des actes aussi. Donc le désir du paresseux le tue parce que ses mains refusent de travailler. Et dans notre société, des fois, on a peur de travailler. Ou qu'est-ce qui est moins d'ouvrage, c'est ça qu'on va rechercher à faire, n'est-ce pas? Des fois, qu'est-ce qui est moins d'ouvrage, c'est seulement je peux prendre l'ascenseur ou même prendre le petit tapis roulant. Vous savez, à l'aéroport, il y a les tapis roulants, là. De peur qu'on marcherait. Hein? Il faut que ça soit facile, facile. Proverbe 24, ça dit, « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Il fait trop froid, je ne sortirai pas de chez nous. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » Parce qu'il n'a rien fait à l'avance. Il n'a pas planifié, il n'a rien préparé. Il était trop paresseux. Proverbe 26, 15. « Le paresseux plonge sa main dans le plat. » Qu'un bon plat de biscuits. « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. » C'est trop d'ouvrage. C'est trop d'ouvrage. Proverbe 26, 14. « La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. » Hein, ses gonds, on ouvre la porte et le paresseux, il a de la misère à se revirer de bord dans le lit. Proverbe 6, 9. « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? » Ça peut être une question pour nous de jamais permettre la paresse spirituelle à entrer dans nos vies. Qu'on puisse toujours être zélé comme nous sommes aujourd'hui. Toujours, toujours zélé et dire, moi, là, je veux m'approcher de Dieu. Moi, je veux faire plaisir avec Dieu. Je veux faire plaisir à Dieu avec ma vie. Je veux tout faire ce que Dieu m'appelle à faire. Et s'il y a des choses que je fais pas encore, que Dieu m'appelle à faire, et Seigneur, révèle-toi à moi. Puis, Seigneur, si tu te révèles à moi, Seigneur, donne-moi d'être obéissant et de répondre à l'appel. Et si vous avez un cœur sincère devant Dieu, moi, je crois que Dieu va vous révéler, Dieu va vous le montrer qu'est-ce que vous avez à faire. Et là, vous allez pouvoir entrer dans la joie de votre Seigneur parce que, justement, vous allez répondre à l'appel. Proverbe 22, 13, ça dit, « Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. » Si ça nous parle, quelqu'un, le paresseux, c'est quelqu'un aussi qui a peur, un peureux. Il y a un lion dehors. Je ne sortirai pas, je vais me faire tuer. Hein? Ça, c'est la peur de faire de quoi? Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur ou de timidité. Amen, mais de force d'amour et de sagesse. L'activité, ça, c'est le chemin de la bénédiction. Mais pas juste n'importe quelle activité. L'activité que Dieu vous appelle à faire. Dans nos églises, souvent, qu'est-ce qu'on a vu? C'était des chrétiens qui étaient fatigués. Quand on voit des gens découragés, épuisés, écœurés de la vie chrétienne, c'est pourquoi? Parce qu'ils faisaient des œuvres que Dieu ne les appelait pas à faire. Si vous allez à l'église et vous faites de quoi? Admettons, vous conduisez les champs. C'est pas le cas à Jean, là. Il est appelé de Dieu, on le confirme. Mais admettons, c'est facile comme c'est le ministère visible, là. Mais si vous conduisez les champs, puis vous n'êtes pas appelé à faire ça, puis il n'y a personne de béni dans l'église et vous n'êtes pas béni, c'est une révélation ce matin que vous n'êtes pas appelé à le faire. Mais quand vous êtes appelé à le faire, les gens dans l'église vont être bénis, vous allez être bénis. Et Dieu veut qu'on puisse être actif dans le ministère et être béni. Proverbe 12, 27, ça dit, « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » L'activité, c'est un précieux trésor. Quelle révolution dans notre pensée! La société dit, « Fais le moins possible. » Hein? Mais il y en a aussi qui disent qu'il faut commencer à faire l'exercice parce qu'on engraisse, on engraisse. Mais d'un côté, hein, on va prendre les tapis roulants, on va prendre l'ascenseur, on va tout faire, qu'est-ce qui est plus facile. Mais Dieu dit que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire dans son service? L'appel de Dieu sur nos vies, c'est précieux. C'est précieux, c'est un précieux trésor. Est-ce qu'on sait valoriser ces choses-là? Que c'est précieux aux yeux de Dieu et ça devrait être précieux à nos yeux? Des fois, les gens vont dire, « Ouais, mais toi, tu laves les toilettes à l'église. » Ouais, mais c'est précieux, cette activité-là, parce que Dieu m'appelle à le faire. C'est précieux. Il faut changer notre façon de penser. Parce que les gens vont dire, « Oui, mais qu'est-ce qui est précieux, c'est si tu as gagné un Oscar. » Je ne l'ai pas gagné l'Oscar, mais je gagne des points avec Dieu parce que je suis en train de lui plaire, je suis en train de vivre ma vie selon son appel sur ma vie. Proverbe 15, verset 19. « Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. » Quand Dieu vous appelle à faire de quoi, Dieu va ouvrir le chemin devant vous. Et moi, je crois ça pour votre vie aujourd'hui. Si Dieu vous appelle à faire de quoi, Dieu va ouvrir le chemin devant vous. Il va vous entourer avec la faveur que vous avez besoin dans vos vies. Amen. Et dans Proverbe 13, verset 4, ça dit, « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. » Parce que Dieu va vous donner ce que vous avez sous votre cœur. Vous allez être rassasié dans votre vie. Mais qu'est-ce qu'on doit toujours revenir au fait? Ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis prêt à être actif pour le Seigneur? Est-ce que je suis prêt à le servir de tout mon cœur? Est-ce que je suis prêt à m'offrir comme un sacrifice vivant, comme on est appelé à le faire dans la parole de Dieu? Un sacrifice vivant, ça veut dire, je te donne tout, Seigneur. Il n'y a rien, il n'y a pas une place dans ma vie que je ne te donne pas. Il n'y a pas une place que je me réserve. Mais toute ma vie, Seigneur, je te donne. Prends-la, ma vie. Fais-en qu'est-ce que tu en veux. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Prends-la toute. Puis si on est rendu à ce point-là, puis on dit, Seigneur, prends ma vie, fais-en un chef-d'œuvre pour ta gloire, moi, je vous dis que Dieu va le faire. Dieu va se glorifier à travers vous parce que vous allez réaliser que qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie, c'est de faire plaisir à Dieu. Et la façon de faire plaisir à Dieu, c'est par la foi. Amen. Ce matin, c'est un message très simple, mais c'est de nous ramener toujours à avoir la perspective éternelle aujourd'hui, la perspective de l'éternité. Et peut-être aujourd'hui, vous passez à travers des épreuves. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous passez. Dieu le sait qu'est-ce que vous passez à travers. Mais si vous passez à travers des épreuves, prenez cette épreuve-là et mettez-la dans la perspective de l'éternité. Dans 1 million d'années, est-ce que cette chose-là va vous déranger encore? Est-ce que ça va être encore dérangeant aujourd'hui, dans 1 million d'années, cette chose-là? Moi, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai eu un problème et j'ai commencé à mettre cette chose-là dans la perspective éternelle, mon problème là, est très, très, très minime. Parce que mon Dieu est très, très grand. Amen. On sert un bon Dieu aujourd'hui. Un bon Dieu qui a un cœur pour ses enfants. Il veut que chaque enfant rentre dans sa destinée. Il veut que chaque enfant soit béni chaque jour de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. On a des problèmes, même si on est un enfant de Dieu. Il y a des défis pour chaque enfant de Dieu. Il y a toutes sortes de choses que l'ennemi veut nous envoyer pour nous empêcher d'être le succès que Dieu nous appelle à être. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est nous conduire par la main à chaque jour. Dieu veut être là parmi nous. Puis, lui, le succès, là, c'est pas le succès des hommes. Les hommes, eux, ils disent, si vous avez de l'argent, si vous avez la belle auto, si vous avez ça, vous avez succès. Dieu, là, c'est si vous êtes un enfant de Dieu et si vous êtes dans votre appel, vous êtes un succès. C'est qui vous êtes? Un succès, c'est qui vous êtes? Et moi, je peux vous dire, là, je suis un succès, là, parce que je suis un enfant de Dieu. Puis, je marche en réponse à cet appel. Vous êtes un succès si vous dites oui à Jésus-Christ aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre à demain. On commence tout de suite à se voir comme Dieu nous voit. Moi, là, je suis un enfant de Dieu puis je réponds à l'appel de Dieu sur ma vie. Puis aujourd'hui, je veux vous encourager. On va pencher nos têtes. S'il y a quelqu'un ici, je vais vous inviter juste à pencher vos têtes. On va fermer les yeux. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui ressent vraiment le Seigneur parler dans vos cœurs, vous sentez que le Seigneur est en train de vous dire, aujourd'hui, je vous demande de remettre votre vie en règle. Pas nécessairement d'être sauvé aujourd'hui. Je crois que la majorité, peut-être d'entre vous, vous êtes tous sauvés, mais de mettre votre vie en règle pour que Dieu devienne vraiment la priorité. Peut-être pendant un temps, le Seigneur a été priorité C ou D, mais aujourd'hui, Dieu vous dit, je veux être numéro 1 dans votre vie, je veux être le A, numéro 1. Et si aujourd'hui, la parole concernant l'éternité et comment Dieu veut vous remporter le prix dans votre vie, si ça a touché quelque chose dans votre cœur, je vais vous demander de lever votre main là où vous êtes. Et Dieu voit, merci, merci, merci. Je vois les mains qui se lèvent, merci. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Je vais inviter l'équipe de la louange. On va chanter et on va simplement se reconsacrer à Dieu. On va se reconsacrer à Dieu et dire, Seigneur, moi, là, je vais te donner ma vie complètement à tous les niveaux dans ma vie. Je vais vous inviter à vous lever là où vous êtes. Et on va faire un geste. Je vais inviter tout le monde à le faire. Faites attention. Faire un geste qui est très simple. On va simplement prendre nos deux mains. J'ai de la difficulté parce que j'ai le micro dans les mains, mais comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va élever nos mains vers le Seigneur qui représente nos vies ce matin. Simplement, on va donner notre vie à Dieu, au Seigneur, et dire, Seigneur, on va prier ensemble maintenant. Seigneur Jésus, on sait que c'est toi, Seigneur Dieu, qui est vraiment le spectateur de nos vies. Et on veut, Seigneur Dieu, te bénir avec nos vies. On ne veut pas, Seigneur, gaspiller nos jours, mais on veut les investir pour l'éternité, Seigneur Dieu. Alors aujourd'hui, on se consacre à toi. Seigneur, on te donne toutes nos journées, Seigneur, toutes nos soirées. Seigneur, on te prie de nous transformer aujourd'hui et de se rappeler de cette journée de consécration, que tu vas être le numéro un, Seigneur Dieu. Qu'on va passer nos vies, Seigneur, à vouloir, à rechercher, à te faire plaisir, Seigneur Dieu, à marcher par la foi, Seigneur. On te remercie, Seigneur, parce que tu es ici parmi nous et que tu vois ce geste ce matin. Tu vois, Seigneur, nos cœurs qui s'ouvrent devant toi et qui te dit, viens, prends la place qui te revient, Seigneur. Prends la place, Seigneur, qui te revient dans nos vies, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Et Seigneur, tu vois les mains, les gens, Seigneur, qui sont ici ce matin. Seigneur, je décrète, Seigneur, sur eux ta bénédiction. Seigneur, je te remercie pour la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur, qui vient sur eux maintenant, qui vient les enrober, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Et Seigneur, comme tu nous dis dans ta parole, on va faire des plus grandes choses que toi, Seigneur. Bien, ce matin, Seigneur, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va se mettre en accord avec toi. On va se mettre en accord avec ta parole qui dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui est malade, Seigneur, on décrète maintenant la parole de foi que oui, au nom de Jésus, le shalom de Dieu est sur chaque tête. Le shalom de Dieu, rien manquant, rien de brisé, est prononcé sur chaque tête. Merci, Seigneur, pour la guérison des corps et la guérison des âmes. C'est des gens qui sont meurtris dans leur cœur, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, que ton onction de guérison vient faire le travail dans les cœurs ce matin. Qu'on puisse sortir de cette place transformée, Seigneur Jésus, touché par toi. Merci, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, s'il y a des gens qui vivent avec toutes sortes de problèmes dans leur demeure, la discorde, Seigneur Dieu, on réclame ta paix aujourd'hui. On réclame ta paix, Seigneur, ton amour qui puisse régner sur nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia, merci de le faire. Gloire à toi, Seigneur Jésus. On te loue, Seigneur, pour qui tu es. On te loue, Seigneur, parce que tu nous donnes le chemin. Tu nous montres, Seigneur, le chemin à suivre en toi. Gloire à toi. Alléluia, Jésus.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.